Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très très importante concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 19 et nous aurons les deux thèmes suivants. Première partie, sainteté et foi. Deuxième partie, la sainteté dans un monde impie. Tout d'abord, sainteté et foi. Il est dit dans Hébreux, au chapitre 11, verset 8, par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans même savoir où il allait. Chers amis, dans leur marche vers la sainteté, les chrétiens sont souvent invités à accomplir des tâches qui semblent déraisonnables et même absurdes à un monde incroyant. L'exemple de ce fermier chrétien en témoigne. Lorsque le blé est tout juste prêt à être récolté, il est donc essentiel de moissonner rapidement de peur que le mauvais temps n'endommage la récolte ou ne diminue sa qualité. On moissonne donc souvent 7 jours par semaine. Mais ce fermier-là, convaincu de ce qu'il devait respecter le dimanche comme le jour du Seigneur, ne laissait jamais travailler ses ouvriers, même quand menaçait l'orage. Ce comportement semblait étrange et déraisonnable au fermier voisin. Il est cependant intéressant de noter qu'au fil des années, ce fermier chrétien est devenu le plus prospère de toute sa région. Comme Abraham, il a simplement obéi par la foi à ce qu'il savait être la volonté de Dieu, même si parfois cette obéissance n'était pas facile. Nous avons déjà observé que les chrétiens sincères ne partagent pas tous le même point de vue sur les activités permises le dimanche. Néanmoins, cet homme obéissait à la volonté de Dieu pour lui-même. Nous interprétons généralement la sainteté dans le sens étroit, de séparation de l'impureté et du mal, mais dans un sens plus large, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, qui doit primer. C'est dire, par exemple, c'est dire avec Jésus, « me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux, chapitre 10, verset 7. Personne ne peut rechercher la sainteté s'il n'est pas disposé à obéir à Dieu dans tous les domaines de sa vie. La sainteté décrite dans la Sainte Bible nous enjoint de faire davantage que de nous séparer de la souillure morale qui nous entoure. Elle nous invite donc à obéir à Dieu, même lorsque cette obéissance nous coûte beaucoup. Elle exige un sacrifice volontaire, ou même elle nous expose au danger. Souvent, l'obéissance à la volonté révélée de Dieu, cela exige en même temps un pas dans la foi et la prise en compte d'une promesse divine. On est très, très étonné en lisant l'Épître aux Hébreux que l'auteur semble utiliser les mots obéissance et la foi comme s'ils étaient interchangeables. Il parle par exemple des Juifs de l'Ancien Testament qui ne sont jamais entrés dans le repos de Dieu parce qu'ils avaient désobéi. Hébreux chapitre 3, verset 18. Puis, il précise que c'était à cause de leur incrédulité. Hébreux chapitre 3, verset 19. Un exemple analogue se retrouve plus loin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 2 et 6. Chers amis, n'hésitez pas de noter toutes les indications bibliques que je vous donne. Parce que c'est important que vous puissiez contrôler ensuite dans votre Bible si ce qu'on vous dit vient vraiment de la Sainte Bible ou si c'est simplement une théologie personnelle. Ce que je ne permettrai jamais, car j'aurai des comptes à rendre à Dieu un jour. Poursuivons. Chers amis, les héros de la foi qui sont décrits dans Hébreux au chapitre 11, ces héros-là sont tous morts dans la foi, selon le verset 13. Mais dans ce chapitre, nous voyons que l'élément d'obéissance en réponse à la volonté de Dieu était tout aussi marquant dans leur vie que par la foi aux promesses divines. Le fait le plus important, c'est qu'ils ont obéi par la foi. Je répète, le fait le plus important, c'est qu'ils ont toujours obéi par la foi. Puisque l'obéissance est la voie qui mène à la sainteté, nous pouvons dire que personne ne deviendra saint sans mener une vie de foi. La foi est donc nécessaire non seulement pour le salut, mais aussi pour mener une vie qui plaît à Dieu. Elle nous permet de nous fonder sur ses promesses et d'obéir à ses commandements. Elle nous permet d'obéir quand l'obéissance coûte ou paraît déraisonnable total, c'est-à-dire surtout à vue humaine. Plusieurs illustrations de Hébreux chapitre 11, le grand chapitre de la foi, illustrent très bien, et ils font ressortir cette vérité fondamentale. C'est donc par la foi que Abel a offert un meilleur sacrifice que Caïn, obtenant ainsi l'approbation de Dieu, verset 4. Évidemment, on peut supposer que l'Éternel avait révélé à Caïn et à Abel la nécessité d'offrir des sacrifices et la façon de les présenter. Le reste des Saintes Écritures nous dit que Dieu exige le sacrifice d'un agneau et l'effusion du sang. Donc, par la foi, Abel a cru à la parole de l'Éternel, il l'a pris au mot, bien qu'il n'avait probablement même pas compris pourquoi le sacrifice de l'agneau était le seul acceptable. Par contre, Caïn n'a pas cru à la révélation divine sur le sacrifice acceptable. Il n'y a pas cru. Peut-être il n'y a pas cru parce qu'il ne l'a pas considéré comme étant raisonnable. Et en n'y obéissant pas, il n'a pas obtenu, hélas, il n'a pas obtenu la bénédiction de l'Éternel. Chers amis, il est vrai Oh oui, que les valeurs du monde qui nous entourent aujourd'hui de toutes parts, c'est pas très drôle. Oh non. Donc, nous devons faire attention. Voyez-vous, la célébrité, par exemple, la chance et le bonheur immédiat, eh bien, tout cela est considéré comme étant le but le plus désirable de la vie. Mais la Sainte Bible condamne sans embâge la valeur de ses objectifs. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, est-il dit qu'il soit votre serviteur? Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave? C'est très difficile de comprendre cela, mais c'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 20, versets 26 et 27. Il ne faut pas que les riches mettent trop leur espérance dans des richesses incertaines, mais qu'ils aient foi surtout en Dieu qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous en puissions jouir. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 et 18. Il faut donc vraiment la foi pour s'attacher à de telles valeurs bibliques quand la société ambiante poursuit des buts totalement opposés. Cette foi, elle s'accroche au fait que Dieu soutient et qu'il bénit finalement tous ceux qui lui obéissent, qui lui font confiance pour les conséquences de l'obéissance. Par exemple, la vie de Noé, oh là là, la vie de Noé est un exemple de ce genre de foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse et il construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient uniquement par la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Le jugement imminent que l'Éternel a révélé à Noé était en premier lieu un avertissement. Par la foi, Noé y a vraiment cru. Sa conviction sur un événement inconnu jusqu'alors était fondée uniquement sur la sainte parole révélée de Dieu. Il croyait aussi que la façon de se sauver du jugement à venir, passait par le moyen choisi par Dieu, c'est-à-dire l'arche. Il s'est donc appuyé sur cette promesse et il s'est sauvé lui et sa famille. La construction de l'arche est l'un des plus grands exemples de persévérance dans une obéissance très difficile. C'est incroyable, car pendant 140 années, Noé a travaillé parce qu'il avait pris au sérieux l'avertissement de Dieu et il a cru à sa promesse. Imaginez un instant, pendant 140 ans, des milliers de personnes se sont moquées de lui, le prenant pour un fou. Et 140 ans, croyez-moi, ce ne sont pas 140 jours. La vie d'Abraham, elle illustre également l'obéissance dans la foi. L'appel du prophète se décompose en deux parties, un commandement et une promesse. Le commandement, c'était de quitter son père et de se rendre dans un pays que Dieu lui montrera. La promesse, c'était « Dieu fera de lui une grande nation, et par lui il bénira toutes les familles de la terre. Abraham était persuadé que l'un et l'autre venaient de Dieu. Il a donc obéi au commandement et il s'est attendu à l'accomplissement de la promesse. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham a obéi. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Donc, Abraham a reçu un commandement de Dieu et la promesse d'arriver dans un pays où il deviendrait le fondateur d'un grand peuple et qu'il deviendrait une source de bénédiction pour bien des nations. Le sentiment de l'obéissance qui recherche la sainteté, ça, c'est souvent contraire à la raison humaine. Si nous n'avons aucune conviction quant à la nécessité d'obéir à la volonté révélée de Dieu, c'est-à-dire la volonté absolue de Dieu, ni aucune confiance dans les promesses divines, nous ne persévérerons donc jamais sur cette voie ardue. Voyez-vous, nous devons donc être persuadés que Dieu veut que nous recherchions la sainteté, quoi qu'il nous en coûte. Je répète, nous devons, si possible, être persuadés que Dieu veut que nous recherchions la sainteté, quoi qu'il nous en coûte. Et il nous faut être confiants que cette quête de la sainteté aboutit à l'approbation et la bénédiction de Dieu, même si les circonstances suggèrent exactement l'inverse. Souvent dans la vie, un acte précis d'obéissance exige à la fois, on peut dire, une conviction profonde et une confiance absolue. Donc l'ordre divin donné à Israël de respecter l'année sabbatique est un exemple, car tous les 7 années, la terre devait avoir un repos sabbatique pour le Seigneur, pendant lequel aucun ensemencement, ni élagage, n'était permis. C'est écrit dans Lévitique chapitre 25, versets 20 à 22. Il fallait donc que les Israélites aient confiance absolue dans la promesse divine pour oser obéir à ce commandement. Malheureusement, l'Ancien Testament semble indiquer qu'ils n'ont pas eu tellement confiance dans la promesse de Dieu et qu'ils n'ont pas cru que sa volonté révélée, absolue, dans ce domaine-là, importait pour leur prospérité nationale et spirituelle. Oh, du reste, aujourd'hui, tout cela est devenu 100 fois pire. Une application néo-testamentaire du même principe spirituel se trouve dans les paroles de Jésus. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît. » Je répète, Jésus a dit dans Saint Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela, oui, tout cela, vous sera donné par surcroît. Le commandement, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et la promesse. La promesse, c'est que Dieu subviendra à tous nos besoins temporels. À cause de notre timidité à saisir les promesses de Dieu, nous avons du mal à obéir à ce commandement. En conséquence, les affaires de ce monde se voit souvent accorder la première place dans les décisions fondamentales de notre vie. La vie de Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord en Israël, est une autre illustration de ce manque de foi qui mène souvent à la désobéissance. L'Éternel lui avait promis en lui disant « Si tu écoutes tout ce que je te prescrirai, si tu marches dans mes chemins, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, gardant mes lois et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, eh bien je serai avec toi et je te bâtirai une dynastie stable, comme celle que j'ai bâtie à David. Je te donnerai donc Israël. » C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 38. Chers amis, Jéroboam a-t-il vraiment cru en Dieu? Lui a-t-il vraiment obéi? Eh bien, nous constatons que pas du tout. Jéroboam dit en son cœur, « Voyons, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi a fait faire deux veaux d'or et il a dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Voici maintenant les dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » En quelque sorte, ces veaux d'or pur, étaient soi-disant devenus leurs dieux. Mais c'est épouvantable. C'est comme aujourd'hui. À croire que Jéroboam n'avait même pas entendu le commandement et la promesse de Dieu, tellement il les a bafoués de façon flagrante. Or, il les avait bel et bien entendus, mais en vain, car il n'avait pas du tout la foi. Hébreux chapitre 4, verset 2. Voyez-vous, avant de condamner Jéroboam, nous ferions bien de considérer notre propre vie. Si souvent, nous abstenons d'obéir à la volonté de Dieu. Très souvent, nous obéissons pas du tout. Clairement révélée, pourtant, cette volonté, elle doit être suivie, parce que nous n'exerçons simplement pas notre foi. Tout ça, c'était 100% mon cas autrefois. Oui, nous refusons tout simplement de croire que l'humilité peut précéder l'élévation. Notez la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Et nous manœuvrons donc pour obtenir une place avantageuse ou pour prendre le dessus sur autrui. Nous ne croyons pas du tout que Dieu prend note de tous les torts qu'on nous fait et qu'il nous vengera un jour, le moment venu. Romains chapitre 12, verset 19. Et nous cherchons donc à régler nos comptes, nous-mêmes, avec celui qui apparemment nous a fait du mal. Nous ne sommes pas du tout persuadés du pouvoir de séduction du péché, Hébreux chapitre 3, verset 13. Et nous jouons donc avec lui en croyant à retirer des satisfactions. Voyez-vous, nous n'avons aucune conviction ferme de ce que sans la sanctification, personne, ne verra le Seigneur sans la sanctification. Et Ne faisons donc pas de celle-ci une priorité dans notre vie. Je répète, nous n'avons aucune conviction sérieuse, ferme, de ce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et nous ne faisons donc pas de celle-ci une priorité dans notre vie. Or, la foi et la sainteté, elles sont inextricablement liées. Car obéir au commandement divin nous oblige, généralement, à croire aux promesses de Dieu. Une définition de la foi pourrait donc être l'obéissance à la volonté révélée de Dieu et la confiance en lui pour les résultats. Je répète, une définition de la foi pourrait être l'obéissance à la volonté absolue de Dieu et la confiance en lui pour les résultats. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, pour nous attacher à la sainteté, il nous faut assez de foi. Oui, il nous faut avoir assez de foi pour obéir à la volonté de Dieu révélée dans les Saintes Écritures et pour croire que ainsi les promesses de Dieu seront les nôtres. Nous arrivons à la deuxième partie, la sainteté dans un monde impie. Il est dit dans Saint Jean chapitre 17 verset 15, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. C'est Jésus qui dit cela. Tous les croyants sont obligés de mener une vie ou leur vie chrétienne dans le contexte d'un monde qui aujourd'hui, on peut dire, est un monde impie. On n'a vraiment pas le choix. Certains ont à faire face à de terribles tentations en vivant dans une atmosphère dans laquelle le péché est vraiment roi. Par exemple, l'étudiant en cité universitaire de nos jours, l'homme ou la femme travaillant sur une base militaire ou à bord d'un bateau, tous ces gens se trouve dans un environnement souillé par la sensualité, le libertinage et la convoitise. L'homme d'affaires doit résister à des pressions souvent énormes qui veulent l'amener à renoncer aux normes éthiques et juridiques pour satisfaire la cupidité et la malhonnêteté de ses associés. Si le chrétien n'est pas préparé par son cœur et dans son esprit à de tels assauts iniques, il aura bien du mal à demeurer dans une vie de sainteté. L'apôtre Jacques déclare que un des éléments de la véritable religion consiste à se garder du monde pour ne pas se souiller. Jacques, chapitre 1, verset 27. Et l'apôtre Paul nous recommande. Il dit, sortez donc d'entre ces gens-là et mettez-vous à l'écart. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Comment le croyant devra-t-il réagir lorsqu'il se trouve entouré de toutes parts par les pressions implacables d'un monde qui est marqué par le péché? La prière de Jésus, elle montre très clairement qu'il n'est pas dans son intention de nous retirer du monde des non-chrétiens, Saint Jean chapitre 17, verset 15, mais il veut plutôt que nous soyons le sel de la terre et que nous soyons la lumière du monde. Saint Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Les auteurs du Nouveau Testament considèrent comme allant de soi que le chrétien vive au sein d'un monde inique. Voyez des passages tels que, notez bien, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10. Continuez de noter Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15, et 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, et chapitre 3, verset 15 à 16. Ils ne nous disent jamais que ce sera facile, oh, pas du tout. Ils nous avertissent même qu'il faudra s'attendre à être ridiculisé et parfois même à être insulté. Notez la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 3 et 4, et 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, et Saint Jean, chapitre 15, verset 19. Au lieu d'éviter tout contact avec le monde, ce qui est, hélas, impossible, efforçons-nous de résister à son influence. Et pour ce faire, il faut d'abord prendre la résolution de vivre par les convictions que Dieu nous a données par sa sainte parole. Nous ne pouvons pas être semblables à M. Bavard qui, dans le voyage du pèlerin, s'enorgueillit de savoir s'adapter, oh oui, à tous les interlocuteurs et à toutes les conversations de ce monde. Il ressemble un peu au caméléon qui change de couleur chaque fois qu'il change d'environnement. Nous connaissons tous des gens qui pratiquent deux langages. L'un parmi les chrétiens et l'autre parmi leurs proches dans le monde. Les convictions que nous acquérons quant à la volonté de Dieu sur la sainteté doivent être suffisamment fermes pour résister aux moqueries des impies et aux pressions qu'ils nous imposent pour nous rendre conformes à leur voie mauvaise. Voyez-vous, pour nous aider à vivre d'après nos convictions, il est donc utile que nous nous identifions ouvertement au Christ Jésus, et cela partout, absolument partout, où nous nous trouvons dans ce monde. Faisons-le donc surtout avec beaucoup de tact, mais de façon très nette. Mais même si nous prenons la résolution de vivre ici-bas d'après les convictions que Dieu nous a données par sa sainte parole, et si nous nous identifions ouvertement au Jésus-Christ, eh bien nous sommes sans arrêt exposés aux influences d'un environnement d'impiété. L'image obscène, omniprésente, vraiment, toutes les plaisanteries grivoises racontées en notre présence, ainsi que les vantardises et les récits sans fin d'activités immorales racontées par ceux-là même qui s'y livrent, autant de pièges qui contribuent à entraîner notre esprit dans la fange de ce monde. Nous pourrions ajouter les coups bas portés par les associés en affaires, la médisance continuelle de nos voisins et collègues, les mensonges et semi-vérités que nous entendons autour de nous. La Sainte Bible, elle est vraiment notre meilleure défense contre cette influence néfaste. David a dit, « Comment un jeune homme aurait-il une conduite pure ? C'est en prenant garde selon ta parole. » Psaume, chapitre 119, verset 9. La Sainte Bible purifie en effet nos pensées de toutes les pollutions mentales de ce monde, si nous méditons sur ses enseignements. La parole de Dieu, elle sert aussi de mise en garde continuelle qui nous empêche de succomber à la fréquente tentation d'abandonner nos regards et nos pensées à l'immoralité ambiante. Le monde d'en bas et l'abîme sont absolument insatiables. Insatiables aussi sont les yeux de l'homme. Est-il dit dans Proverbes, chapitre 27, verset 20. Pas de propos grossiers, s'il vous plaît. Pas de stupidité ou des choses scabreuses. C'est tout à fait inconvenant. Abondez donc totalement plutôt à l'action de grâce. Nous devons donc, selon Éphésiens chapitre 5, verset 4, abonder dans l'action de grâce. Néanmoins, notre réaction vis-à-vis de notre entourage impie, notre entourage qui vraiment aujourd'hui est épouvantable, ne doit donc pas simplement être d'une façon défensive, mais nous devons nous préoccuper non seulement de notre propre pureté de cœur et d'esprit, je dis bien, mais aussi du sort éternel de tous ceux qui nous influencent. Dieu nous a donc placés dans ce monde. Il ne nous a pas mis dans un couvent avec les carmélites. Il nous a placés dans ce monde pour être le sel et la lumière, selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. La métaphore du sel qui décrit notre relation avec le monde, nous devons donc être un agent de conservation. Nous devons être un antiseptique, un facteur qui empêche et qui retarde la décomposition. Le célèbre docteur William Hendrickson a déclaré que le sel combat la détérioration. De même, les chrétiens, en s'affirmant comme tels, combattent sans cesse la détérioration morale et spirituelle dans ce monde. Oui, ce monde est vraiment mauvais, et ça c'est vrai. Mais Dieu seul sait combien la corruption serait pire encore si elle n'était pas limitée par l'exemple et par la vie et par les prières des saints. En tant que lumière du monde, nous portons la bonne nouvelle du salut. Jésus lui-même, il est la vraie lumière. Et tout comme Jean-Baptiste, un chrétien vient en témoin pour rendre témoignage à la lumière, selon Saint Jean, chapitre 1, verset 7 à 9. Le croyant qui témoigne avec un réel souci pour une personne, ne risque pas d'être corrompu par l'immoralité de celle-ci. Par sa sollicitude affectueuse et pleine de tact, il va conduire cette personne vers le Seigneur. Chers amis, être le sel ou la lumière du monde, ce n'est pas nécessairement dénoncer le péché des autres, mais c'est être conscient de leurs besoins de Jésus-Christ comme étant et puissant devenir leur sauveur avant de nous occuper de leur conduite. Voyez-vous, notre vie de sainteté personnelle, c'est un reproche totalement suffisant. Henri Clay, il était un grand évangéliste et doué en particulier pour le contact personnel. Or, un jour, il se trouvait dans un train à côté d'un jeune homme qui buvait plus que de raison. Et chaque fois que celui-ci débouchait sa bouteille, il offrait à boire à Mr. Trumbull, qui lui, évidemment, refusait très poliment. Finalement, le jeune homme déclara à son voisin : « Vous devez vous dire que je suis un gars assez grossier. » Monsieur Trumbull répondit avec beaucoup de douceur : « Mais absolument pas. Au contraire, vous m'avez l'air d'un gars très généreux. » Et ainsi ils purent avoir une conversation sérieuse sur le besoin du jeune homme d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Lorsque Jésus appela Matthieu, le péager, pour le suivre, et qu'il a même dîné, il a pris un repas chez lui avec quelques amis, les pharisiens se sont plaints. Voyons, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et avec les pécheurs ? Jésus leur dit : mais ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Or, je suis venu, moi, pour appeler non pas les justes, mais pour appeler les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Saint Luc chapitre 5, versets 30 à 32. C'est sans doute ce que Dieu veut que nous fassions lorsque nous brillons comme la lumière du monde. Enfin, en dépit de toutes nos bonnes attitudes évoquées dans ce CD, il se peut que notre environnement corrompu devienne totalement intolérable, surtout lorsque, comme Lot, nous sommes tourmentés par les iniquités que nous entendons et que nous voyons. Notez 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8, et la Genèse, tout le chapitre 19. Donc, une telle situation, elle peut se présenter, par exemple, dans une résidence mixte où des couples qui ne sont pas mariés vivent carrément ouvertement ensemble dans l'immoralité. Certains sont même mariés et qui vivent dans l'immoralité ou dans une situation professionnelle qui nous conduit sans cesse à transgresser la loi ou à faire des compromis avec nos principes chrétiens. Nous devrions alors envisager, dans la prière, c'est sérieux, d'aller carrément ailleurs. Je sais bien que ce n'est peut-être pas humainement possible quand, par exemple, vous êtes à l'armée Ah oui, mais vous pouvez recourir à la prière, puisque avec Dieu, tout est absolument possible. Chers amis, comme vous savez, j'ai passé 90 ans. Or, je ne pouvais pratiquement presque plus parler. Or, depuis quelque temps, j'ai la nette impression qu'une personne prie pour moi parce que ma voix d'autrefois est revenue. Et même l'infirmier qui est venu hier pour transmettre du fer par intraveineuse à Madame Sorge, il a dit « C'est très curieux, car vous ne paraissez absolument pas être un homme de passé 90 ans. » Tout cela, chers amis, fait partie des mystères de Dieu. Pour terminer notre étude d'aujourd'hui, il est bien difficile de préserver sa sainteté personnelle dans un monde impie comme aujourd'hui, et je le reconnais. Les conseils qui précèdent ne sont pas du tout destinés à gommer ces difficultés-là, mais à nous apporter une aide pratique dans des situations délicates. Par-dessus tout, nous devons regarder à Jésus, qui tout en mangeant avec des péagers et des pécheurs, était lui-même absolument saint, absolument innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux, selon Hébreux chapitre 7, verset 26. Fondons donc, nous tous, sur la promesse que les tentations auxquelles vous avez été exposés, ils ont tous été à la mesure de l'homme. Oui, car Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Car avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir. Et il vous donnera la force de la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, tu veux que ton royaume éternel se développe ici-bas par une lente croissance. Par l'envoi de ton Fils bien-aimé, tu as fait lever sur notre vie la meilleure, la merveilleuse aurore de ta grâce. Nous t'en supplions, ô Seigneur, donne-nous des yeux pour voir ton action puissante. Donne-nous des cœurs ouverts pour comprendre ta sainte volonté. Donne-nous des esprits courageux, prêts à suivre le Maître. Éternel notre Dieu, Père Saint, oui, nous nous approchons de ton trône dans un esprit de gratitude et de prière. Tu as allumé, Seigneur, dans les ténèbres du monde, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, l'inextricable clarté de ton message de joie, pour que à cette lumière germe et croisse et fructifie la semence de ta sainte parole. Tu connais, ô Seigneur, le cœur des hommes, et tu sais qu'ils ne se tournent et qu'ils se tournent comme des fleurs, souvent, que vers la lumière naturelle. Or, il y en a qui fuient la vérité. Ils fuient la vérité à cause du jugement qui, à la lueur de ton éternelle splendeur, atteint les cœurs enténébrés et mauvais. Ô Seigneur, nous t'en prions, sois donc indulgent à notre faiblesse et accorde-nous l'Esprit Saint qui vivifie avec la foi, oh oui, qui peut vaincre le monde et qui peut le gagner. Amen. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu vous aime. C'est un fait que tous ceux qui un jour ont accepté sa main tendue, ont compris qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient pécheurs, donc pécheurs perdus, ont compris que pour avoir la vie éternelle, ils devaient se convertir, se donner corps et âme et esprit à Jésus-Christ. Et ils l'ont fait. Donc, Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir, évidemment, c'est la moindre des choses, de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, à l'instant même, où que vous soyez, je vous enlace maintenant et je vous embrasse avec tout mon amour. Et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé. Oui, figurez-vous, j'étais un tout jeune homme en 1954. Et bien entendu, toutes ces musiques et ces chants ont perdu de leur netteté parce que tout d'abord j'ai dû les transmettre depuis le Revox à bande sur des cassettes et ensuite plus tard, comme maintenant, sur des CD. Alors, il y a des ratés et ça a perdu beaucoup de sa qualité. Mais l'Esprit Saint se trouve là, dans ces chants qui ont été chantés par des hommes et des femmes consacrés totalement au Seigneur. Essayons.
I thank you, Jesus, I thank you, Lord. Well, you brought me, yes, you brought me from the mighty long way.
You've been my father,
oh yes.
You've been my mother,
oh yes.
You've been my sister,
my brother too. Well, you brought me, yes, you brought me from the mighty long way.
You've been my preacher,
oh yes.
You've been my deacon,
oh yes.
You've been my teacher,
my friend and dear.
Well,
you brought me, yes, you brought me from the mighty long way.
I thank you, Jesus, I thank you, Lord.
Well, you brought me, yes, you brought me from the mighty long way.
I thank you, Jesus, I thank you, Lord.
Well, you brought me, yes, you brought me from the
when you suffer and gentle one. Hold on, keep holding on. When you need nothing, so very fine, just put on heaven on all you want. And in the rubber I'm holding on,
I'm holding on,
I'm holding on,
I'm holding on.
Well, I've got a good hold of the master's hand, I'm holding on,
oh, I'm holding on.
Well, as soon as I make
just a few more runs,
have a few more ups,
and a few more downs,
I'm going on home,
and get my crown.
Still holding on,
I'm 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 holding on.
Well, I've got a good hold of the master's hand, I'm holding on,
oh, I'm holding on.
One day I was
on the way down,
my soul in sin
and a sorrow bound.
Well, he picked me up
and turned me around.
I'm holding on,
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 I'm holding on.
Well, I've got a good hold of the master's hand, I'm holding on,
oh, I'm holding on.
One day I reached,
I cannot pray,
in a land of joy,
and
I never shall,
and never fail.
Still holding on,
I'm 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 holding on.
Well, I've got a good hold of the master's hand, I'm holding on,
oh, I'm holding on.
One day I viewed
that city sun,
where the battle will be fought,
and victory won,
and the crying day
will hold me down.
I'm holding on.
Peter, go ring them bells, Peter. Berg or in Danvers, I'm heard from heaven today.
I wonder where Sister Mary is gone. I wonder where Sister Mary is gone. I wonder where Sister Mary is gone. I heard from heaven today.
Peter, go ring them bells. Peter, go ring them bells. Peter, go ring them bells. I heard from heaven today.
thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Lord.
Well,
you brought me, yes, you brought me from the mighty, a mighty long way, a mighty long way. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Lord.
Well,
you brought me, yes, you brought me from the mighty, a mighty long way, a mighty long way.
You've been my father,
oh yes.
You've been my mother,
oh yes.
You've been my sister, my brother too.
Well, you brought me, yes, you brought me from the mighty, a mighty long way, a mighty long way.
You've been my preacher,
oh yes.
You've been my deacon,
oh yes.
You've been my teacher, my friend and
aid. Well, you brought me, yes, you brought me from the mighty, a mighty long way, a mighty long way.
I thank you, Jesus.
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 I thank you, Lord.
Well,
you brought me, yes, you brought me from the mighty, a mighty long way. A mighty long way.
I thank you, Jesus.
I thank you, Jesus.
I thank you, Jesus.
I thank you, Jesus.
I thank you, Lord.
Well, you brought me, yes, you brought me from the mighty, a mighty long way, a mighty long way.